C'est une histoire assez sordide. Comme on en voit à la télé, dans la Syrie, faites rentrer l'accusé. On pourrait titrer l'affaire de la vigne de Naboth. Cette vigne est située à côté de la demeure d'Akab et de Jézabel. Akab, le roi, la convoite. Naboth refuse de donner ou de vendre son héritage venant de ses pères. Jézabel, la femme du roi, prend les choses en main. Est-ce bien toi, Akab, qui exerce la souveraineté en Israël? Moi, je te donnerai la vigne de Naboth. Elle écrit au nom d'Akab des lettres qu'elle scelle du sceau d'Akab et les adresse aux anciens. Elle organise un jeûne. Et Naboth est placé devant le peuple. Deux méchants hommes choisis par Jézabel déposent plainte contre Naboth. Tu as maudit Dieu et le roi. Naboth est lapidé, meurt, Akab s'empare de la vigne. Il faut dire qu'à cette époque, les gens étaient très divisés d'un point de vue religieux. Il y avait d'un côté les partisans de Baal, c'est-à-dire du culte des idoles, et de l'autre, les partisans de l'Éternel. Et Jézabel était réellement en pointe du mouvement païen. Naboth a-t-il fait une offre raisonnable? Absolument. Le roi propose un accord à Naboth, alors que le roi pourrait très bien être tenté de prendre sa vigne, tout simplement. Alors, pourquoi Naboth refuse-t-il? Cette terre appartenait à sa famille depuis longtemps. Est-ce une bonne raison? Naboth est-il insensé? Pourquoi refuser cet accord pour des raisons sentimentales? Mais ces raisons ne sont pas sentimentales. D'après le livre des Nombres, chapitre 36, Nombre 36, chapitre 7, Dieu avait exigé des Israélites qu'ils gardent la terre qu'ils hériteraient. Ainsi, Naboth considère que c'est servir le Dieu d'Israël que de refuser l'offre du roi. Pour Akab, deux cultures cananéennes, placées sous l'influence de Jézabel et plongées dans un climat d'idolâtrie, il n'y avait pas du tout d'exigence de cette sorte qui vaille. Et tout objet de toute nature pouvait être l'objet d'un commerce, y compris l'héritage des pères. Et notez bien que Jézabel est futée. Elle voit bien le motif religieux de Naboth. Et elle décide de perdre Naboth en utilisant des prescriptions israélites que l'on trouve dans le Lévitique et dans le second livre de Samuel. Dans Lévitique, Dieu dit à Moïse, « Quiconque insulte le nom de Dieu doit être mis à mort, toute l'assemblée d'Israël le tuera en jetant des pierres. » Et dans Samuel, « Celui qui a maudit le roi, choisi par Dieu, doit être mis à mort. » Elle monte donc un guet-apens pour perdre Naboth. Alors Élie entre en scène pour maudire tout le monde, mais Akab fait repentance. Dieu, voyant la repentance d'Akab, lui pardonne. En fait, il ne pardonne pas tout à fait. il reporte la punition sur Joram, fils d'Akab. Et alors ça, c'est très étonnant pour nous, et même choquant. Pourquoi le fils serait-il puni d'une faute qu'il n'a pas commise? Alors, je vais vous raconter la fin de l'histoire. Pendant une guerre contre les Syriens, Akab est blessé mortellement par une flèche lancée, comme par hasard, juste à l'articulation du bras, entre la protection du corps et celle du bras, le défaut de la cuirasse. Donc, il est mort. Mais Joram, son fils, ne devient pas le roi. C'est Jéhu qui devient le nouveau roi d'Israël. Il commence, tout à fait logiquement parlé pour l'époque, par éliminer la famille de l'ancien roi et à récupérer le palais et les biens du roi. Joram, fils d'Akab, est donc mort à cause des mœurs politiques de l'époque et non pour expier les fautes de son père. Le Seigneur n'est donc pas aussi vengeur qu'il veut bien le faire croire par moments. Jézabel succombe aussi. Quant à sa fille, qui s'appelait Athalie, je vous renvoie à la tragédie du Grand Racine avec le fameux songe d'Athalie. C'était pendant l'horreur d'une profonde nuit. Ma mère, Jézabel, devant moi s'est montrée comme au jour de sa mort, pompeusement parée. Vous pouvez voir la suite si vous voulez. Alors vraiment, au point où nous en sommes, frères et sœurs, on peut se demander pourquoi ce texte a été choisi pour thème d'une prédication par l'équipe des sages qui organise la lecture de la Bible sur 6 ans. Qu'est-ce que ce texte peut bien vouloir nous dire encore? Nous qui ne vivons plus sous la domination d'un roi despotique, à une époque où le pouvoir n'a pas besoin de faire assassiner quelqu'un pour confisquer son bien, et que même l'assassinat n'est plus vraiment un outil politique. Et si, voyez-vous, si au-delà du récit historique, ce texte était une parabole, si le sens du texte était plutôt au second degré. Bon, l'usage de la parabole est assez courant dans le Nouveau Testament, il est plus rare dans l'Ancien Testament. Ce qui frappe le plus, voyez-vous, c'est la coexistence dans ce récit de deux sortes de gens. Les partisans de Dieu, d'un côté, qui sont Élie, évidemment, Naboth aussi, qui par fidélité à Dieu veut garder la vigne de famille, même si celle qu'on lui offre en remplacement est meilleure. Et puis de l'autre côté, il y a les partisans de Baal, c'est-à-dire de l'idolâtrie, qui revendiquent le droit de faire commerce de toutes choses, même les plus sacrées. Et puis il y a une lutte féroce, sans merci, entre les deux. Et puis il y a Dieu qui regarde ça de son balcon, qui se réjouit quand c'est les siens qui avancent et qui se triste quand les siens reculent. Eh bien, je crois que nous y sommes. Ce texte nous pousse à reconnaître l'esprit du mal qui est dans Jézabel, l'homme faible et méchant qui est Akab, et au nom de qui l'injustice est commise. L'homme droit, qui prêche la vérité et qui est Élie. Et enfin, l'homme simple, qui ne demandait rien à personne et qui se trouve victime d'avoir refusé de céder sa vigne, ce qu'il aurait considéré comme une sorte de trahison, car céder l'héritage des ancêtres, c'est comme céder à l'idéologie dominante, l'idéologie du culte des idoles, car la marchandisation de son héritage, c'est à ses yeux, comme un sacrifice fait à une idole. Frères et sœurs, pouvons-nous être bien sûrs que les idoles ont disparu de notre quotidien? Quand nous ouvrons le journal, nous voyons qu'il est question du taux de croissance, qui seul serait capable de faire baisser le chômage. Dans nos boîtes à lettres, nous sommes assaillis par la publicité qui veut nous faire croire qu'il faut consommer davantage, même en faisant des dettes. La radio nous parle de G8, de G20, de subprimes, de banques qui font de l'argent pour faire de l'argent, en ayant oublié que la mission d'une banque, c'est de financer l'activité économique et non de faire gonfler des bulles spéculatives et de s'enrichir en passant le papier à d'autres avant que la supercherie ne soit découverte. Pouvons-nous être sûrs que nous tournons toujours le dos résolument à des idoles? Peut-être que consommer, c'est faire un sacrifice à une idole qui s'appellerait croissance. Peut-être que cette idole croissance nous récompenserait en combattant pour nous la malédiction, chômage. Peut-être que la pub, qui ne se borne pas à annoncer les produits nouveaux, mais s'efforce de créer de nouveaux besoins, serait une variante de la propagande. La différence, c'est que la pub veut nous convertir à un genre de vie, la consommation, alors que la propagande voudrait nous convertir faussement à une idée, une idéologie. J'ai été frappé par ce que Jacques Ellul écrit sur les idoles contemporaines. Pour lui, la foi dans le progrès technique s'est petit à petit substituée à la foi en Dieu. Au début, le progrès technique, c'était un moyen de vivre mieux, en soulageant la peine du travailleur, en allongeant la durée et la qualité de la vie grâce aux avancées de la médecine. Les exemples ne manquent pas. Et puis, le progrès technique a trouvé en lui-même sa propre légitimité. Une nouveauté est bonne parce que c'est une nouveauté. Et Jacques Ellul s'indigne contre cette maxime qu'il qualifie de pensée naïve et qui renaît sans cesse de ses cendres. Ce n'est pas la technique qui est mauvaise, c'est l'usage qu'on en fait. Il faut méconnaître la technique pour penser ainsi, dit-il. Elle est méthode, et en tant que telle, elle est perfectible à l'infini. Elle s'engendre elle-même. Les caractéristiques à un stade donné de son développement font apparaître la possibilité et donc la nécessité d'un autre stade. Elle obéit à sa propre causalité. Aucune fin morale ne l'infléchit. Oui, il y a un bon et un mauvais usage des techniques. Mais le mauvais usage est une erreur technique, et non pas une faute de morale. L'automobiliste qui bousille son moteur, c'est parce qu'il en a fait un mauvais usage, il a été trop fort, il n'a pas mis d'huile. C'est une erreur, pas un péché. Le péché, c'est d'accepter l'autonomie de la technique. C'est de croire que grâce à la technique, l'homme de demain va émerger de l'homme d'aujourd'hui. Le péché, c'est de croire que l'homme peut fabriquer son destin, construire son avenir. C'est péché parce que celui qui croit ça, il ne croit pas en Dieu. Il n'a pas besoin de Dieu. Seigneur, éloigne de nous cette tentation. Akkad a refusé la marchandisation de son héritage. C'était il y a longtemps. Mais aujourd'hui, certains chercheurs demandent la permission de cloner les cellules humaines, de bricoler les cellules souches. Certaines femmes même veulent faire porter leurs embryons par d'autres femmes. Ce que l'on nous propose, c'est la marchandisation de l'homme. Que faire? Que faire maintenant que la technique serait devenue autonome? Qu'elle suivrait sa propre logique et semblerait échapper à tout contrôle? En bioéthique, il y a encore un petit contrôle politique dans certains pays sous la pression des opinions publiques. Nous pouvons participer à cette pression. Pas fini. Nous pouvons résister avec l'aide de Dieu à cette pensée dominante. Nous pouvons nous dire que si le péril est grand, la fin n'est pas inéluctable. Que Dieu se montre seulement, dit le psaume. Mais n'attendez pas qu'il se montre dans le journal de 20 heures. C'est dans nos cœurs qu'il se montrera. Nous devons résister, et il y a beaucoup à faire. Mais nous ne sommes pas seuls, et nous pouvons espérer des renforts. Souvenez-vous de ce qu'a dit notre Seigneur quand il a envoyé les 70 dans le monde. La moisson est grande et il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Amen.